Rencontre sauvage avec Nicolas Gilsoul, architecte et écrivain. Un podcast du Musée de la chasse et de la nature. Nicolas Gilsoul, quelle serait votre plus belle rencontre avec le monde sauvage ?
Alors, des belles rencontres, il y en a tous les jours. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu des rencontres très émouvantes, il y a eu des rencontres épouvantables, il y a eu des rencontres qui faisaient peur, qui faisaient frissonner, et puis d'autres qui m'ont fait sourire, d'autres qui m'ont fait pleurer. Mais il y en a une particulièrement qui surpasse toutes les autres, je pense. C'était au Japon, il y a quelques années, dans le sud de Kyoto. Il y a un sanctuaire shintoïste, très ancien, une colline, couverte de forêts, couverte de bois, qui s'appelle Fushimi-Inari, et dans lequel on peut retrouver des milliers de petites statues de renards blancs qui sont habillés avec une espèce de tunique rouge. Ce sont des yokai, des esprits de la forêt, et ces renards sont très présents au bas du temple. Et le Fushimi-Inari, ce sont des grands portiques rouges qu'on appelle des torii. C'est-à-dire on a deux colonnes qui ressemblent à des troncs d'arbres avec un élément horizontal légèrement incurvé. C'est rouge, laqué, c'est brillant. Et ces torii se suivent à la queue leu-leu et forment des corridors qui grimpent dans la montagne avec des escaliers. Ils sont espacés de quelques centimètres seulement et donc ils laissent entrevoir sur le côté des morceaux de forêt. Il est surtout entendre et sentir les morceaux de forêt. Et puis, quand vous grimpez, vous perdez rapidement les sculptures de tous ces renards et vous êtes seul dans la forêt, dans ce cheminement. À cette heure-là, il n'y avait plus personne. Moi, je ne parle pas japonais. Ce n'était pas encore l'époque des GPS et on ne s'était pas géolocalisé, donc j'étais vraiment perdu dans cette forêt. Et il faut savoir qu'à chaque morceau de corridor, quand ça s'arrête, ça s'ouvre sur une petite clairière et puis vous avez deux nouveaux cheminements qui commencent. Et à la fin de chaque cheminement, vous avez deux nouveaux cheminements et à la fin de chaque... Et donc c'est un véritable labyrinthe. C'est voulu, c'est parce qu'en fait il faut se perdre. Il faut se perdre dans Fushimi-Inari, il faut se perdre dans la forêt. Et donc au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir peur parce que j'étais tout seul au milieu d'une forêt au cœur du Japon et que ça sentait très bizarre. Ça sentait une odeur très sauvage, très forte de musc que je connaissais pas à ce moment-là. Et j'ai entendu glapir, j'ai entendu gémir, des rires, j'ai entendu des bruissements, des feuilles qui craquent, des branches, des machins. Et quand je regardais entre les torii, dans la perspective de la forêt, de temps en temps j'apercevais des yeux, des reflets d'yeux qui étaient éclairés par les lanternes de ces cheminements, que c'est le seul truc qui est éclairé dans la forêt. Et j'ai compris que c'était les renards, évidemment, mais je ne les ai jamais vus en entier, je les ai juste imaginés. J'avais dans la tête tout cet esprit un petit peu, c'était une rencontre, un mélange entre les studios de Miyazaki et la littérature japonaise. C'était quelque chose de magique. Et j'ai eu très très peur, et donc je me suis mis à dire des mantras, à réciter des mantras pour me calmer et pour essayer de retrouver mon chemin. Et petit à petit, j'ai retrouvé mon chemin dans l'autre sens. Et le lendemain, le conducteur de taxi, je lui expliquais l'aventure. Et il m'a dit « Ah, mais vous avez rencontré Inari ?» Parce que Inari, donc j'ai appris par après, que Inari, ce renard, était un être très malicieux, qui pouvait se transformer en femme magnifique, mais qui pouvait aussi lire dans vos pensées et transformer vos rêves, et transformer le futur et le passé. Et donc j'ai trouvé que c'était extraordinaire comme rencontre et j'ai essayé de rencontrer d'autres renards à partir de ce moment-là. Et c'est vrai que ça a changé ma vie. Ça a été une rencontre très particulière.
Et la première sensation ou émotion peut-être qui a été liée au renard, c'est quand même la peur, puisque c'est ce que vous avez éprouvé. Alors la peur face aux animaux, c'est quelque chose qui vous a aussi beaucoup intéressé, puisque vous avez écrit « Peur bête ».
Oui, mais la peur, je pense qu'en fait, on est bourré de croyances. Et par rapport au monde animal, souvent ce qu'on nous en a dit, que ce soit dans les contes, la littérature, la Bible, ou ce qu'on nous a transmis par l'éducation et la culture, souvent on nous présente les animaux comme étant des parfaites machines à faire ceci ou à faire cela. Par exemple, le requin est une machine à tuer. Était une machine à tuer pendant longtemps. On s'est rendu compte qu'on était plutôt le prédateur du requin qu'autre chose, puisqu'on en tue 100 millions par an. Et Cette peur a nourri des croyances et ces croyances nous poussent aujourd'hui à accélérer cette érosion de la biodiversité. Et donc, travailler sur la peur, c'est-à-dire travailler en amont par la connaissance pour essayer de comprendre le monde extraordinaire de tous ces animaux, leurs interactions, c'est-à-dire leur écologie, la manière dont ils se comportent entre eux, mais aussi avec leur environnement, avec d'autres espèces, etc. Ça nous permet de dépasser ces a priori, ces jugements, et de freiner, ou en tout cas de ralentir cette érosion de la biodiversité du vivant.
Et quel regard vous portez sur les animaux sauvages? Parce que vous avez constitué au fil du temps un bestiaire immense, que ce soit les animaux qu'on peut trouver en ville ou alors les animaux qu'on trouve dans des espaces peut-être plus sauvages. Comment vous allez à leur rencontre et comment vous décidez d'en parler?
Alors comment je vais à leur rencontre? C'est des envies et des opportunités. Je suis par exemple descendu marcher avec les gouttiers qui s'occupent du canal de l'Ourcq entre République et le port de l'Arsenal à Paris, parce que je cherchais des rats dans ces canaux souterrains. En réalité, il n'y avait pas de rats, mais j'ai croisé un héron qui ressemblait à un fantôme. C'est extraordinaire, c'est une rencontre extraordinaire. Je voulais à tout prix croiser, on m'avait parlé de ces énormes poissons-chats, les silures, qui sont notamment dans la Seine, mais dans le Rhône aussi, qui sont des énormes poissons avec une peau gluante, et des grosses moustaches et un sourire digne d'Alice au Pays des Merveilles. Et donc je voulais le croiser et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a amené au chevet de la cathédrale Notre-Dame et on a sorti de l'eau un silure qui faisait 2,40 m. On lui a fait un bisou, on l'a caressé et on l'a relâché. C'est des rencontres comme ça, c'est-à-dire c'est des opportunités, des envies, qui après se transforme en expédition. Chercher la mygale à chaussettes dans le jardin des plantes à Paris. Chercher les renardeaux du Père Lachaise. Donc se faire enfermer dans le cimetière après les heures d'ouverture, un soir d'orage terrible, et attendre pendant des heures dans l'abri d'un mausolée, et tout d'un coup voir apparaître deux renardeaux jouer entre les tombes. Voilà, c'est une série d'opportunités qui font que je constitue effectivement au fil du temps un bestiaire, mais qui n'est pas programmé, qui est un bestiaire du cœur, je dirais. Et dans les animaux sauvages, je mets aussi bien les insectes. C'est-à-dire que aussi bien le bourdon, la libellule, que certaines iules, qui sont des espèces de mille-pattes qui datent de l'époque des dinosaures, m'intéressent. Je n'ai pas de préjugés ni d'avis préconçus, parce que chacune de ces bestioles a un univers en soi, une manière de voir le monde, de le constituer, qui est fascinante et dont j'ai envie de parler à mes enfants et aux autres.
Et vous ne vous sentez pas, en tout cas à vous entendre parler, extérieur à ce monde, au monde du sauvage ?
Non, j'ai toujours eu l'impression d'être sauvage. En fait, j'ai jamais eu de frères ou de sœurs humains. Par contre, j'ai eu des frères et sœurs animaux. J'ai toujours grandi avec tout un tas de bestioles, que ce soit des tortues, des oiseaux de toutes les sortes, des chiens, il y avait même le voisin était un clown et il avait un python qui sortait sur la rambarde de son balcon une fois par semaine. J'ai grandi au milieu des animaux et j'ai jamais eu aucune appréhension. C'est pas pour ça que je les prenais pour des animaux de Disney ou pour. J'ai toujours compris qu'il y avait une distance nécessaire par rapport à l'animal sauvage, mais ça me fascine de rester couché dans les feuilles pendant des heures pour surprendre le passage d'une fourmi.
Qu'est-ce que ça vous apporte, cette observation du sauvage? Est-ce que ça, au fil du temps, est-ce que ça vous a transformé?
Oui, je crois que ça m'a transformé. C'est-à-dire que j'étais extrêmement urbain. On sait aujourd'hui que la ville, c'est le nouveau milieu naturel de l'humanité, puisque la plupart d'entre nous habitons dans des villes. Et quand je parle de ville, c'est pas uniquement des hypercentres, puisque les villes sont tentaculaires. Je viens de Belgique, pour moi la Belgique, c'est une immense ville. Il n'y a plus vraiment de nature sauvage par là. Par contre, au fil du temps et au fil de la rencontre de tous ces animaux, je me suis rendu compte qu'ils peuplaient aujourd'hui cette espèce de mosaïque d'écosystèmes hybrides qu'on appelle la ville ou qu'on appelle la campagne sans vraiment savoir si c'est l'un ou si c'est l'autre, et que comprendre leur monde et leur manière de fonctionner nous permet une meilleure coexistence. Puisque c'est ça l'objectif finalement, c'est d'essayer de comprendre non pas comment cohabiter, parce qu'une cohabitation ce serait de forcer l'un ou l'autre à vivre ensemble, et on n'a pas forcément envie de cohabiter avec des araignées, Mais coexister, c'est les respecter et comprendre ce qu'on peut faire pour éviter de détruire leur environnement ou de l'avoir transformé à tel point qu'aujourd'hui, par exemple, le crapaud vert dans l'est de la France ne vit plus à 92% que dans nos friches industrielles et nos carrières.
Et quelque part, cette scène que vous nous avez décrite au Japon a quelque chose de totalement initiatique, comme le début d'une quête ?
C'est presque un conte initiatique, et à chaque fois, je dirais que c'est presque un conte initiatique. Cette histoire de renard me poursuit, puisque là, j'écris un conte pour des enfants, un conte de transformation et de métamorphose, dans lequel un enfant devient un renard au milieu du cimetière du Père-Lachaise. Et c'est assez magique, voilà. C'est à chaque fois un conte.
Il y a quelque chose du renard en vous, maintenant ?
Il y a quelque chose du renard dans son approche du monde, je dirais par petites touches très discrètes. Un renard, c'est quelqu'un de très discret. Dans sa manière de marcher, dans sa manière de se déplacer, dans sa manière de muloter, c'est-à-dire de chasser le campagnol, dans la manière d'écouter le monde, le renard est capable d'entendre des souris discuter à plus de 100 mètres. Il faut une sacrée oreille. Alors je dis pas que j'ai une sacrée oreille, mais je dis que je la tends, en tout cas, vers ce monde-là.
C'était La rencontre sauvage de Nicolas Gilsoul, dont le dernier livre, Peur bête, est sorti aux éditions Fayard. Un podcast du Musée de la chasse et de la nature, réalisé par Céline Duchesnay et Laurent Polleret.